Culture d'Islam par Ghaleb Bentcheir. Aujourd'hui, je reçois Mustapha Bentaibi. Bonjour.
Bonjour.
Mustapha Bentaibi, vous êtes docteur en sciences du langage, vous êtes linguiste, vous êtes diplômé de l'université René Descartes et vous avez composé un ouvrage intitulé « Quelques façons de lire le texte coranique », « Quelques façons au pluriel ». Donc vous voulez appliquer au texte coranique eh bien, les méthodes des sciences humaines et notamment de la linguistique et de la sémiologie.
Exactement.
Alors, nous découvrirons ensemble ces méthodes que vous appliquez à ce texte. Dites-nous par quoi vous avez commencé.
Alors, j'ai commencé par une thèse d'abord, parce que l'ouvrage, c'est issu d'un travail universitaire. Donc là, c'est le travail remanié d'une thèse qui a été tenue à l'université René Descartes. Quand on veut faire un travail universitaire, puis on refaire un livre, on modifie certaines choses par rapport à la soutenance au travail universitaire proprement dit. Donc j'ai dû réfléchir encore à ce qui manquait par rapport au premier travail. Je me suis toujours posé la question, en tant que linguiste, et de toute façon c'est la casquette qu'on me donne, etc. Qu'est-ce que peuvent faire les sciences de langage dans l'analyse et la compréhension de textes coraniques? Sachant bien que pour faire ce travail, il faut prendre le texte coranique en tant que texte parmi d'autres.
Un texte.
Un texte. Voilà, un texte qui je me suis attardé à pratiquer une interprétation, puisqu'il s'agit d'une analyse, mais en même temps, c'est une position interprétative. Je reviendrai là-dessus.
Une analyse, une compréhension.
Une compréhension.
Parce qu'avant d'interpréter, il faut déjà comprendre.
Il faut déjà comprendre. Et pour faire une analyse linguistique, etc., donc, ce premier était de jeter un regard critique sur le texte, et non pas simplement de faire une analyse qui serait l'écho de ce qui est dit dans le Coran.
Oui, c'est-à-dire que votre démarche n'est pas nécessairement une démarche confessante, comme on dit, une démarche de foi, ce n'est pas le sujet en tout cas. Vous avez un texte et vous appliquez une grille d'analyse issue des sciences humaines, et tout particulièrement de la linguistique, pour faire ressortir des spécificités à ce texte.
Oui, personnellement, j'imagine que d'autres qui sont penchés sur le texte, je suis passé par des étapes différentes dans mon rapport à ce texte. Il y a l'étape de fascination, subjugué par tout ce qui est dit, et puis il y a l'étape de la relation intime, et puis après, quand les conditions, quand le parcours le permet, donc je vais faire un parcours critique, un regard critique sur le texte. Pour ce faire, donc j'ai essayé de poser des questions au texte coranique lui-même.
Quand vous parlez d'un regard critique, c'est un regard critique au sens académique du
terme. Au sens académique du terme. Je me suis attardé à poser des questions directement au texte lui-même, puisque je m'attarde à l'analyse du texte, et non pas les intermédiaires. Ces questions sont simples, c'est qui parle, à qui, de quoi, comment et pourquoi. Ces questions paraissent simples, mais la réponse donnée par quiconque détermine sa position du texte lui-même.
Alors, vous avez une série de questions. Nous les reprenons une à une. Donc, l'auteur premier de ce texte, qui parle?
Qui parle, c'est une question intéressante. On connaît plus ou moins, quand on lit un texte, etc., qui parle. Mais dans le cas du texte coranique, ça renvoie à la révélation. La révélation, c'est comme les grands mots, comme bonheur, comme inconscience. C'est des mots qu'on ne peut pas les définir de façon univoque.
Et même le mot « révélation », chez les puristes, et chez les linguistes, ça, ce sont des choses que vous savez très bien, est un mot amphibologique qui dit une chose et son contraire.
Exactement.
Quand on révèle quelque chose, on le manifeste, on le dit, mais en même temps, on le voile et on le cache.
Exactement.
De par la révélation elle-même.
De par la révélation. Donc, puisqu'on n'a pas un savoir déterminé, un savoir exact qui nous dirait exactement qu'est-ce que c'est la révélation. Néanmoins, on peut se référer aussi aux traditions, etc., qui nous ont expliqué ce que ça peut être la révélation. Donc, qui parle, qui renvoie à la question « qui parle à travers ma bouche ?» Donc, on l'explique par deux façons. La première, c'est que la révélation, c'est le Coran qui est descendu sur Mohammed, aussi bien au niveau de la forme que au niveau du contenu. La deuxième position, c'est elle, par exemple, qui dit que c'est Mohammed qui a été inspiré par Gabriel, par la révélation, qui lui-même s'est chargé de mettre en forme le Coran.
Et c'est lui-même qui le dit, donc on est en auto-référence.
En auto-référence. Alors, mais la première position qui dit que le Coran s'est révélé contenu et forme, c'est un peu ambigu, puisque ça sous-entend qu'il nous présente au niveau de la linguistique une langue séparée et de sa signification, et que tout est déterminé à l'avance par rapport à la signification. Ce qui est un petit peu ambigu, puisqu'il y a aussi ceux qui disent que la signification, c'est pas dans la langue, mais c'est dans l'usage de la langue. La deuxième position, le prophète qui se charge de mettre en forme le contenu, la révélation, on sait très bien que ce qu'il décrit, c'est un prophète qui passait dans la révélation par des moments difficiles qu'ils a transcendés, et que dans sa révélation, dans ces moments difficiles, il les recevait comme un rêve, soit en étant endormi, soit en étant éveillé.
Donc ce sont là, vous décrivez le processus même de la révélation.
Oui, mais
tel que ça a été rapporté.
Mais ce qu'on a, que nous avons, les hommes différents, quand on parle des rêves, ce qu'on a, pas seulement le rêve, on a surtout la façon de raconter ce rêve, ce qui change tout.
Donc là, vous nous dites à la fois que cette révélation, on va adopter le mot, a deux canaux. Le premier, c'est une inspiration, articulée par la suite par un homme qui sera le prophète de l'islam, et c'est aussi peut-être le produit d'une vision ou d'un rêve, et puis peut-être c'est directement une dictée surnaturelle, pour emprunter le mot de Louis Massignon.
Ça nous pose un problème dans la mesure où ça met en avant une signification prédéterminée à l'avance. Alors qu'on sait que la signification, c'est aussi l'usage quand on en fait. Et dans la deuxième partie, la révélation inspirée mais mise en forme par le prophète, ça nous envoie au rêve, qu'il soit nocturne ou éveillé. Mais quand c'est du rêve, c'est que il n'y a pas que le rêve, il y a un petit peu de rêve, mais il y a aussi la façon de raconter le rêve, ce qui fait que le Coran et la religion, quelle que soit, n'est pas uniquement une simple révélation, mais il y a aussi une histoire derrière.
Alors, Mustapha Ben Taïbi, vous êtes linguiste et vous intéressez au Coran, au texte coranique. Vous avez des réflexions, nous les découvrons ensemble. Qui, là, on n'a pas encore répondu directement, vous n'avez pas encore répondu à la question, qui est l'auteur premier qui parle?
L'auteur premier, évidemment, quand on se réfère uniquement au texte. Mais après, il y a l'histoire de la composition du texte, on y reviendra. L'auteur premier, évidemment, c'est Dieu, puisqu'il le dit lui-même et clairement défini. Puis après, il se transforme en narrateur, puisqu'il raconte des histoires aussi. Et puis, il est présenté aussi en tant que destinateur et destinataire de ceux qui lui adressent la parole.
Enfin, en réalité, il raconte des récits.
C'est des récits. Exactement.
Raconter des histoires à une autre acception.
À l'intérieur de ces récits, il y a des histoires, mais c'est des récits mythiques. Voilà.
Ce sont de factures mythiques. Alors, Peut-on dire que l'auteur premier, qui est devenu narrateur, celui qui raconte des récits, est aussi un allocuteur?
Oui, bien sûr.
Premier.
Oui, c'est un allocuteur premier.
Et le prophète, comme personne, humaine, est un allocuteur second?
Second, quand il s'adresse effectivement au public devant lui.
Donc à ses tout premiers compagnons.
À ses tout premiers compagnons.
Et qui eux-mêmes, à leur tour,
etc. Et puis ainsi de suite. En fait, il y a des destinataires. Il y a le destinataire premier du message, qui est le prophète. Et puis, il y a le destinataire second, qui sont vous, les compagnons, vous et moi. Et parmi ces destinataires, il y a aussi ceux dans le Coran qui se présentaient comme faisant partie des croyants, et il y a des destinataires qui sont des opposants au message.
Et pouvons-nous nous permettre le néologisme de destinateur qui s'adresse à des destinataires?
Ah, c'est des destinataires, exactement.
Et donc le destinateur premier, en l'occurrence, en ce qui concerne le Coran, est Dieu.
Et Dieu,
c'est
exactement.
C'est le postulat de
base. C'est le postulat de base du texte, et c'est... Parce que moi, j'avais un texte devant moi, je me suis dit, qui parle dans ce texte? Voilà.
Alors, maintenant, intéressons-nous au message.
Oui.
Alors, qu'y a-t-il, pour reprendre vos questions de tout à l'heure?
Alors, je reviendrai juste, si vous le voulez bien, sur la linguistique elle-même. La linguistique sur laquelle je me suis appuyé, c'est pas celle qu'on entendait par structuralisme. Parce que le structuralisme, il cherchait, face à la diversité des langues, des structures sous-jacentes, unifiées, etc., sous couvert de méthodes scientifiques. Mais il ne s'intéressait pas au fonctionnement du discours. Or, moi, avec des références linguistiques différentes, parce qu'il n'y en a qu'une seule, où je m'attarde aussi bien sur l'énonciation que sur les gens qui sont appliqués dans le texte, au fonctionnement du discours. Donc, évidemment, dans chaque composante d'une œuvre, c'est une émanation d'une conscience, et pour s'accomplir, il faut d'autres consciences. Donc, il s'adresse à qui? Donc, on a dit qu'il s'adresse au prophète, etc. Donc, il y a le contenu qui vient après. Le contenu est... Pour chercher le contenu, il faut savoir un petit peu la méthode d'analyse et comment on va pratiquer. Depuis longtemps, l'unité de base d'analyse, ça a été toujours le verset. Qui aussi, c'est une façon d'analyser aussi. Mais cette méthode-là, c'était dans le souci premier de faciliter la mémorisation, etc. Je me suis dit qu'il faut dépasser ou passer à autre chose, pas uniquement le verset, mais le type de texte et le genre.
Alors, à ce stade de notre entretien, je voudrais simplement préciser et voir si j'ai compris. Vous dites que, du point de vue de la linguistique structuraliste, on ne s'intéresse pas nécessairement au discours. En revanche, d'autres références dans les sciences du langage, elles, et c'est sur celles-là que vous vous êtes fondé vous-même, s'intéressent au contenu même.
Oui, c'est-à-dire au fonctionnement, comment il fonctionne un discours quelconque pour faire sens, pour transmettre son message.
Et que l'unité de base étant le verset, simplement les versets sont en tension linguistique avec ce qui précède et avec ce qui suit, et ça donne une scène herméneutique.
Exactement. Alors pourquoi les genres et pas les versets? Parce que les genres, c'est une entrée possible d'analyser. Et quand on identifie un genre particulier dans un texte, ça donne des outils de le comprendre.
Alors, le contenu, peut-être pas au singulier, mais de quoi ça parle?
Alors, de quoi parle le texte? Eh ben, c'est des textes qui s'inspirent de ce qui a été dit avant, c'est-à-dire des récits des autres religions monothéistes.
Ce sont les devanciers dans la foi.
C'est devant les devanciers dans la foi. Il cite ses sources pour en prendre position, bien sûr. Non seulement dans la vision, dans le but de répéter, mais de prendre position, donner un autre sens. Il parle de choses concrètes qui concernaient les contemporains, qui pour d'autres, ça peut concerner aussi davantage les autres, des problèmes concrets, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on peut diviser le contenu, des références à l'au-delà, et puis des références de son monde ci, c'est-à-dire de monde ci-bas. Et puis, on voit dans le Coran tout ce qui est dit dans la Bible et la Torah, mais reformulé différemment. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'est pourquoi, quand j'ai identifié les genres que j'ai étudiés, à savoir le récit, la description, le discours rapporté et les expériences religieuses, à savoir en tant qu'acte ou de langage, à savoir la prière et la louange, c'est de savoir comment il a pu articuler ces genres-là pour signifier son message et que ce soit compris. Sachant bien que si on veut passer du contenu, c'est-à-dire de quoi il a parlé, à pourquoi c'est difficile, parce que c'est dans le texte lui-même qui justifie le pourquoi de son dire. Et je pense que je me suis intéressé plutôt à comment il fait passer son message qu'au pourquoi. Parce que si on cherche à expliquer qu'est-ce qu'il dit dans le Coran, qu'est-ce que l'islam, etc., je pense à autre chose.
Nous sommes toujours sur France Culture, dans l'émission Culture d'Islam, avec Mustapha Ben Taïbi, linguiste, et nous parlons de son ouvrage, Quelques façons de lire le texte coranique. Et donc, il y a une application des méthodes des sciences du langage à un texte. Mustapha Ben Taïbi, qu'est-ce que c'est que cette idée de portée théologique considérable qui consiste à dire que par moment, peut-être, la révélation descend un point nommé pour épouser les contours de la vie et les contingences humaines à un moment donné de l'histoire.
Cette révélation qu'on a dite descendante, nous met un petit peu en difficulté parce que ça suppose que celui qui prononce le message et celui qui le reçoit, on a les mêmes codes. Ben non, on n'a pas les mêmes codes pour comprendre ce qui a été dit. Et la question que je me pose, c'est sommes-nous capables, ou autrement dit, est-ce que dans l'interprétation, dans la façon que j'ai essayé de la faire comprendre, est-ce qu'on doit interpréter le texte d'après sa situation de production originelle, à l'époque de prophète, ou, d'un autre côté, interpréter le texte d'après l'époque de l'interprète, de celui qui veut analyser le texte. Je pense, pour ma part, qu'il faut les deux, parce que le texte coranique résiste à l'analyse, résiste parce que il parle une langue, d'après ce que j'ai dit, qui n'est pas la langue maternelle, qui n'est pas notre langue maternelle. C'est de l'arabe qu'on peut comprendre, mais qui n'est pas notre langue maternelle. Je ne sais même pas si elle a été la langue maternelle à l'époque des compagnons. Donc c'est une langue difficile, premièrement. Deuxièmement, circonstances de production du texte, il y a beaucoup de choses qui nous échappent.
Oui, Mustapha Ben Taïbi rapporte que les coranologues, ceux qui s'intéressent à la science du Coran, disent, il y a un débat entre eux, est-ce que c'est le dialecte de la Mecque à ce moment-là, ou est-ce que c'est une sorte d'une langue un peu supérieure, une francalingua, comme on dit en termes techniques, une koinée qui dépasse le simple dialecte mécois qu'on trouve dans le texte coranique, avec des emprunts lexicaux faits au syriaque, au grec et même au persan. Moi, ma question, c'était, puisqu'il y a plusieurs genres dans le texte coranique, il y a le récit, il y a aussi la métaphore, il y a l'allégorie, il y a une cosmogonie somme toute naïve au regard des avancées scientifiques de l'astrophysique, mais en tout cas qui existe, fondée sur les sept cieux, etc. Mais il y a aussi par moments, durant le ministère apostolique du prophète, des allusions faites à la vie des compagnons. Et donc c'est cette idée d'épouser les contours d'une communauté en cours de formation qui pose problème, qui interpelle à tout le moins, qui parle et pourquoi s'intéresse-t-il à cette communauté en cours de formation, en cours de mutation.
Oui, parce que le prophète était aussi ce qu'on peut dire sous pression sociale. Il était obligé, aussi en fondant une communauté, une nouvelle communauté religieuse, aussi de s'attarder sur leurs problèmes quotidiens. Donc le prophète était interpellé souvent sur des questions pratiques et ce que dit le Coran sur telle question ou telle question. Bon, et il y avait des explications, il y avait des solutions, il y avait des références sur certaines pratiques qui existaient déjà.
Et donc la révélation s'en fait l'écho.
Et il y a des exemples pratiques dans lesquels, par exemple, le prophète était plus ou moins acculé à épouser telle ou telle solution qui existait déjà, alors que lui, il pensait autrement, il disait autrement. Voilà.
Quelle est la teneur donc essentielle ou principale? À supposer qu'il faille hiérarchiser comme ça les différentes idées qui se trouvent dans le texte coranique.
Le Coran résiste, pose difficultés en référence à la langue, en référence à des choses qui nous échappent, mais en même temps il nous fascine. Et c'est cette fascination et ces éléments qui nous échappent, qui font que on est acculé à, on est obligé d'interpréter à chaque fois. Alors les idées maîtresses, le texte coranique, ça fait partie de ces textes qui se permettent la contradiction. C'est à la fois il fait référence. Et c'est en partie une de ses forces, parce qu'il y a d'autres aussi parce que le texte coranique présente une force qui peut être les éléments de contenu et qui peuvent être aussi ce qui est déjà établi, qui peut être aussi la somme des explications qui ont été données, ça peut être aussi plusieurs choses. Par rapport au contenu, c'est-à-dire au texte coranique, c'est une de ses forces, il permettait la contradiction dans la mesure où il passait aussi bien de récits mythiques formulés autrement, à des promesses, il passait à des demandes, à des injonctions, et à chaque fois, on peut être soit acquiescé, soit avoir un choc en lisant un verset qui ne correspond pas à ce que nous attendions, soit ne pas être d'accord. Mais néanmoins, on reste toujours fasciné. Alors, pour revenir à la question de la métaphore et ce qui était dans le contenu, il est intéressant parce que et le récit, un des contenus, le récit mythique, je pense que nous, êtres humains, on peut avoir aucun rapport à ce monde, au monde de la réalité et du temps qui coule.
Et au monde sensible.
Mais pour, il y a que la narration, il y a que la récit, que la métaphore qui peut rendre compte des aspects de l'au-delà et de Dieu lui-même.
Alors, vous avez évoqué la promesse et la menace. Elles s'entrecroisent tout le temps, parce que le rôle même des prophètes, et non seulement de prophétiser, donc de parler avant et devant, presque prédire au sens premier du terme, mais aussi d'annoncer la bonne nouvelle, l'heureuse nouvelle, l'évangile étymologiquement, mais avertir des jours du jugement dernier. Donc il y a la promesse de la bonne nouvelle, mais il y a aussi la menace qu'au jour du jugement dernier, si vous n'avez pas agi comme il faut, vous aurez à en rendre compte. Et ça s'entrecroise.
Ça s'entrecroise. Et puis, la lecture de ce, comment revient l'interprétation et la réception de textes coraniques, j'ai toujours dit, on n'a pas accès au texte lui-même. Et l'effet de sens produit par le texte, il n'est pas que du Coran, mais tout ce qui a été dit autour du Coran, tout le passé de chacun, de son histoire, de son parcours, etc., etc. C'est là où l'effet de sens joue, par la transmission, par les entours, etc. Et effectivement, comme je dis, la menace et la promesse, donc il y a une contradiction. À la fois on est subjugué et à la fois on peut être en désaccord ou en accord ou choqué en même temps, mais n'empêche, on ne peut pas rester indifférent parce que ce qui est dit dans ce texte, il est dit différemment, il est différemment par rapport à d'autres discours de la vie quotidienne ou de la vie ou du discours scientifique.
Ça, c'est pour l'instant, on est au niveau du contenu, mais au niveau de la forme elle-même. Il y a un impact hypnotique pour les auditeurs quand le reçoivent pour la première fois.
Oui.
Et notamment sensibles à la beauté de la langue arabe.
Oui, parce que alors l'effet de sens et la force du texte aussi, on peut revoir aux côtés des théories psychologiques et sociales, etc., de l'impact de la psalmodie, du texte, etc. Évidemment, mais ce qui m'intéressait, moi, c'est l'impact de la structure langagière du texte et les différentes parties pour produire un sens.
Et la doxa droite islamique parle d'un texte inimitable.
Alors, évidemment, c'est ce qui fait sa particularité. C'est que c'est un texte inimitable.
Bon. Donc le dogme du caractère miraculeux du Coran, c'est pour marquer son origine céleste ou tout simplement parce qu'à aucun moment on n'a pu produire quelque chose du même ordre?
Évidemment, ce qui fait aussi sa force, parce qu'on n'a jamais réussi à produire quelque chose d'équivalent.
Bon. Et que le défi reste éternel.
Ce qui renforce cette force. Mais néanmoins, il a été révélé en langage, en langue humaine, pour que les hommes puissent le comprendre, malgré les difficultés. Et une des caractéristiques aussi du texte coranique, c'est qu'il n'y a pas d'éclaircissement, il y a du silence. Aussi, dans les parties, il ne dit pas tout. Et ce n'est pas dans un texte, le ressort de ce texte de dire tout. Il laisse l'explication, la signification, autre chose, l'application aux humains.
Donc tous les passages elliptiques sur tel ou tel aspect sont laissés à l'intelligence humaine.
À l'intelligence humaine.
Pour interpeler.
Et évidemment, prenons le cas, si on peut donner des exemples, de la question du hijab ou des interdits alimentaire.
J'allais y venir, mais vous abordez la question maintenant, Mustapha Ben Taïbi. Je rappelle à nos amis auditeurs que nous sommes sur Culture d'Islam, sur France Culture, avec vous. Mais vous abordez la question du texte coranique par le biais uniquement de la linguistique et des sciences du langage. Donc nous ne sommes pas dans l'exégèse. Mais vous avez évoqué la question de l'interprétation. Et donc, vous dites que il faut tenir compte de la psyché humaine de celui qui interprète au moment où il le fait, mais tout en tenant compte aussi des conditions initiales.
Alors, l'interprétation, c'est un point de vue. Et puis, on sait très bien qu'il n'y a pas un point de vue qui survole un autre. Et puis, bon, on peut très bien accepter un point de vue et refuser un autre, etc. Néanmoins, vous avez dit que sujet de l'effet psychologique sur la réception de textes coraniques, j'ai essayé plutôt, c'est une option qu'on peut, mais j'ai essayé, moi, dans mon travail, plutôt de comment le texte coranique articule les différentes parties, différents genres que j'ai identifiés. Il y en a d'autres, évidemment, parce que moi, je me suis attardé dans la deuxième partie que sur la sourate Al-A'raf.
C'est la sourate dite des limbes.
Des limbes, oui.
Une sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre.
Voilà. Donc, je suis intéressé à comment le texte coranique articule les différentes parties identifiées pour donner sens à son message. Voilà, c'est l'essentiel.
Alors, maintenant, il y a ce qui fait couler beaucoup d'encre, ce sont les questions de la norme juridique ou la norme religieuse. Vous vouliez évoquer la question du voile, nous y reviendrons aussitôt, mais avec cette idée qu'il faut savoir relativiser le texte à son contexte et ne pas l'utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon le texte serait pris en otage.
Exactement, parce que ça se renvoie aux conditions de circonstances d'énonciation de texte coranique. Moi, dans mon travail, j'ai pas tenu beaucoup compte des conditions, sauf dans la sourate Al-A'raf, où il n'y avait pas vraisemblablement beaucoup d'explications qui peuvent m'aider à comprendre le texte en se référant aux conditions.
Alors, francisons encore une fois Al-A'raf, ce sont les limbes.
Exactement.
C'est la septième sourate, hein,
voilà.
Dans l'ordre de présentation du corpus coranique. Et non pas dans l'ordre chronologique.
Parce que les conditions de production, ça nous échappe beaucoup, comme on a dit. Et puis, si on tient toujours compte, ça renvoie à un texte opportuniste qui dicte quelque chose, parle de quelque chose, par nécessité ou par opportunisme, par une affaire qui se présente, alors qu'on sait très bien que le texte... Et les chroniques, ça va au-delà du simple opportunité. Et aussi, ça nous renvoie à la question, celui qui juge, qui peut juger de ce qui est valable, qu'en condition ou pas, ou de l'applique ou pas. Ça, c'est autre chose.
Donc, d'autant plus que là, il faut faire désespérément le deuil de l'intonation du texte.
Oui.
Donc, qui dit interpréter, dit comprendre, et le recevoir à un moment donné, alors appliquant le cas... pas nécessairement du point de vue, encore une fois, de l'exégèse religieuse, mais uniquement du travail du linguiste que vous faites sur le mot qui renvoie au voile, c'est-à-dire le hijab.
Oui. Alors, pour ne pas rentrer dans la polémique sur le voile, encore une fois, mon travail, c'est pas ça, je me suis posé la question, au lieu de dire qu'est-ce que le hijab, je me suis posé la question, que veut dire le hijab ?
Qu'on traduit en français par le voile.
Le voile. Alors, évidemment, il y a 8 versets sur le hijab dans le texte coranique. Et en posant la question « que veut dire ?» et non pas « qu'est-ce que c'est ?», je me suis rendu compte qu'à chaque fois, le hijab s'est évoqué dans son utilité, c'est-à-dire soit de façon pas spécifique, mais de façon générale, comme barrière, comme séparant quelque chose à d'autre, mais à aucun moment n'a été spécifié la nature du hijab ou quoi que ce soit. Ce que j'ai appelé par les propriétés intrinsèques et extrinsèques de voile. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans le texte coranique, n'est identifié les propriétés intrinsèques du voile, comment il est, comment il doit être reporté, etc., mais uniquement... aux propriétés extrinsèques, c'est-à-dire à quoi il sert. Et voilà.
Et sur les 8 occurrences qui en parlent, il y en a 3 qui seraient relatives aux femmes.
Oui, exactement. Mais dans ces 3 relatives aux femmes, il n'est pas indiqué qu'il doit porter un voile qui couvre la tête ou couvre uniquement le cheveu ou la chevelure. Ah, non, pas du tout.
Et alors, certes, ce n'est pas le propos d'aller encore une fois parler du voile, de son opportunité, de son obligation, injonction, recommandation, avis. L'idée, c'est comment se fait-il qu'un terme, un mot, un vocable a été compris ainsi.
Oui, parce qu'il y a eu des efforts dans le sens inverse qui ont été faits pour faire comprendre. D'abord les médias français qui traduisaient le hijab par le voile, qui a un terme qui n'a rien à voir avec le hijab dans le sens.
Vous pensez qu'il est restrictif ?
Oui, oui. Le voile dans la langue française est très restrictif et il renvoie à ce fichu qu'on met sur la tête. Alors que dans le Coran, il n'y a pas question de fichu, quoi que ce soit, qui doit être mis sur la tête. Et puis, deuxièmement, à l'effort de nos ancêtres, qui, dans des courants de pensée différentes, se sont rechignés à identifier l'aspect vestimentaire que doivent appliquer les femmes, pour couvrir la tête ou autre chose, ou le corps entier, etc. Alors qu'on sait très bien, par exemple, que dans le texte coranique, il n'y a pas d'identification proprement dite du voile d'après ses propriétés intrinsèques.
Et d'ailleurs, les occurrences qui en parlent ne soulignent même pas le mot hijab, donc on ne peut même pas traduire par voile, mais plutôt de la mante, voilà, ou une forme de manteau qu'il faudrait reporter autrement.
Voilà. Tout ça nous renvoie à la question d'interprétation et que toujours on interprète en tant que, voilà, en tant que faqih, en tant que linguiste, en tant que...
Faqih, encore une fois, c'est le jurisconsulte.
C'est le juriste, en tant que quelqu'un d'ordinaire, de spécialiste, etc. Donc ça renvoie à la façon dont lui-même perçoit le verset, d'après son histoire, d'après ses idées, d'après sa... d'après ses, son passé, d'après... etc. etc. Et des... Encore une fois, c'est le sens, on le trouve plutôt dans l'usage qu'on en fait de tel verset et de tel verset, et non pas dans le sens qui est déjà prédéterminé dans le texte.
Alors, pour revenir, Mustapha Ben Taïbi, aux différentes questions que vous avez énoncées tout à l'heure, que vous avez formulées, qui parle l'auteur premier, ça nous avons vu. Pour dire quoi, nous essayons aussi de comprendre. Et à qui ?
À qui, d'abord, au premier destinataire qu'on a dit, le prophète, et deuxièmement...
Le peuple récipiendaire contemporain ou à tout moment ?
Et puis aussi à tout le monde après. Alors, que ce soit les contemporains ou tout le monde, il y a deux parties qui citent. Il y a ceux qui sont en accord avec le message du texte et ceux qui s'opposent à ce texte, qui ont été à l'époque et qui seront toujours, etc.
Et dans quel but ?
Dans le but, justement, parce que comme j'ai étudié une partie du discours rapporté, c'est-à-dire là où il y a plusieurs interlocuteurs dans le texte, je vois ceux qui sont d'accord ou pas d'accord, dans le but de leur donner la parole. Alors, dans la linguistique, on identifie discours rapporté direct, et non pas indirect, c'est-à-dire discours rapporté direct, c'est on est censé rapporter les paroles de ce qui a dit quelque chose objectivement tel qu'il les a dites. Sont dénaturés, sont s'immiscer, sont donnés à notre sens. Donc là, on met deux points, guillemets, etc., on ferme les guillemets à la fin. C'est-à-dire, on met la parole, entre guillemets, entre parenthèses, comme elle a été dite, etc. Or, on sait très bien que ce n'est pas des paroles, ce n'est pas des récits rapportés objectivement, mais c'est des récits, des paroles à rapporter, dont le but de, à la fois de donner la parole aux autres, c'est-à-dire soit ceux qui sont d'accord pour identifier ceux qui sont en harmonie avec son message comme témoins de leur adhésion, et donner aussi la parole à ceux qui ne sont pas d'accord, mais finalement pour retourner leur parole contre eux et leur donner des contre-arguments par la suite pour dire finalement que... En fait, c'est une mise en scène dans laquelle l'auteur essaye si on prend, par exemple, dans un texte littéraire, on insère des paroles des autres pour donner une impression d'objectivité, c'est-à-dire, voilà, telles sont les paroles, etc., on n'a rien omis. Alors, on sait très bien qu'il y a des choix qui ont été faits pour intégrer ces paroles ou ces récits, quoi qu'il soit, dans le texte, sans les dénaturer. C'est un choix qui a été fait, donc, par rapport à d'autres paroles. Donc, on élimine à chaque fois de paroles pour insérer d'autres. Et pour donner une impression d'objectivité, alors, quand on sait très bien que c'est pas le cas, que on cite les paroles, même soi-disant objectivement, mais c'est dans un but d'argumenter son propre message et de retourner leur propre argument contre ceux qui n'étaient pas d'accord.
C'est-à-dire que le choix est fait délibérément pour militer dans le sens voulu au niveau de tous les arguments. Là, ça renvoie encore une fois à l'autoréférence, d'une part, et d'autre part, à la composition même des, ou à la juxtaposition des différents thèmes dans le Coran. Je ne suis pas sûr pour ma part que l'approche quantitative, mais ça vous me le direz, Mustapha Ben Taïbi, soit pertinente, mais les versets dits d'ordre prescriptif, ou législatif, ou normatif, ou principiel, ou paradigmatique, sont très peu par rapport au reste.
Sont très peu. Il y a encore une fois, il faut dit que
c'est à peu près le 1/30 du corpus.
À peu près. Ça veut dire que, d'une part, pour moi, il constitue ce qu'on peut appeler des énoncés qui appartiennent à une ère de famille. Que ce soit les énoncés qui, pour interdire des animaux, pour parler de choses, prescription, le mariage ou l'héritage, etc., ils appartiennent tous à un ère de famille qu'on peut identifier dans la pragmatique par des jeux de langage. Des jeux de langage, c'est-à-dire que raconter, donner un ordre, prescription, etc., etc., etc. Ce qui fait que, alors, on peut dire pourquoi ils constituent uniquement une partie et non pas la totalité du texte. Oui, parce que, encore une fois, le texte coranique ne peut pas, et ça, c'est pas dans son essence de légiférer en tout, mais il donne des indications pour que l'humain puisse progresser dans sa façon de voir les choses.
Dans un autre contexte, et quand on trouvera avec qui on pourrait parler d'exégèse et surtout la connaissance de l'histoire même du texte, qui a été, rappelons-le, morcelé, fragmenté, oui, échelonné, oui, sur 23 années lunaires, il y a aussi le jeu de l'abrogeant et de l'abrogé.
Oui.
Alors, votre méthode, et selon le regard de la linguistique, a pu mettre en évidence ce qui a pu apparaître comme contradiction entre ce qui a été à un moment donné prescrit, puis a été abrogé après coup.
J'ai pas fait joint à ce point-là, mais pour avoir réfléchi sur la question, écoutez, c'est comme les textes de droit. Et on peut amener à abroger telle loi et on identifie d'autres. Ce qui, pour avoir parlé à notre collègue, quand on lui posait une question sur un problème pratique, la réponse du prophète n'a jamais été donnée pratiquement instantanément. Mais elle laissait un laps de temps écouler pour réfléchir à la question.
Alors, c'est lui-même qui devait réfléchir à la question ou il attendait le secours ou le concours de la révélation?
Pour les exégètes théologiens, ils attendaient la révélation.
Alors, quand on est dans la sphère de la foi, de la croyance, oui, donc il faut attendre l'intervention divine, mais le travail des anthropologues du fait religieux s'étonne devant, ça rejoint ma question de tout à l'heure, d'une révélation qui descend à un point nommé.
À point nommé, ça étonne même le linguiste. Qui pour lui, le sens à donner d'une phrase, d'un texte, c'est dans l'usage qu'on en fait. Ils n'ont pas un sens déjà prédéterminé. Voilà. Et d'ailleurs, il y a plein d'histoires concernant le prophète et relations avec ses compagnons, les habitants de son époque, voulait appliquer, par exemple, prenons l'exemple du châtiment de l'adultère. Bon. Sur un événement particulier, les habitants voulaient pratiquer la lapidation.
La lapidation de la femme, des deux d'ailleurs.
Des deux. Mais le prophète avait une autre façon de voir les choses.
Et il n'y a aucun fondement coranique.
Il n'y a aucun fondement coranique. Mais il a cédé à la pression sociale. Que finalement, parce que c'est une pratique qui existait déjà, il a cédé à la pression sociale finalement à la fin.
Alors, de ce point de vue, nous disions, ou je disais moi-même, que l'approche quantifiée ou quantitative n'est peut-être pas nécessairement pertinente ni judicieuse, mais quel sort faites-vous dans vos travaux au verset dit belligène ou de facture martiale, autrement dit les versets violents? Il serait entre 40 et 70, plus ou moins explicite, sur les 6236 versets coraniques. Mais il n'en demeure pas moins que s'il n'y en avait qu'un seul, il aurait posé un problème, puisque l'auteur premier est un Dieu d'amour, de bonté et de miséricorde. Faut-il les prendre comme des récits ou comme des injonctions?
Pour moi, il y a quelque chose de mystérieux qu'un Dieu puisse s'adresser aux hommes. Mais bon, ça c'est...
C'est l'éruption fulgurante dans le monde sensible de ce qui vient du métasensible,
oui,
ou du suprasensible.
Il y a quelque chose de mystérieux, et puis... ces injonctions, effectivement, sont violentes et posent des tas de questions.
Alors, relève-t-il d'un récit pour raconter voilà ce qui s'est passé, ou est-ce que vous devez plutôt agir comme ça?
Non, mais c'est des injonctions, vous devez agir comme ça, c'est pas des récits. Parfois, c'est carrément du commandement d'agir comme ça. Bon, d'où on peut pas se poser des questions, évidemment, parce que à la fois, quand il y a des injonctions comme ça, violentes, au niveau de la réception, soit on est d'accord, soit on est de désaccord, soit on est choqué. Et la révélation, soit que c'est Dieu qui a révélé en langage humain, soit que c'est le prophète qui a lui-même composé la forme. Pour ceux qui disent que c'est Dieu qui a tout composé, ça peut être pour les uns un scandale. Pour les autres, c'est du n'importe quoi, et pour les autres, ça fait partie de la foi, etc.
Et manière d'épouser la psyché humaine à un moment donné, de l'histoire, mais qui doit évoluer.
Qui doit évoluer, et comme j'ai dit, la réception et l'interprétation, c'est un point de vue. Pour ma part, il s'agit de parler en tant que... qui vit dans une époque donnée, avec toutes ces contradictions, et qui essaye de mettre en avant un point de vue qui peut être partagé par d'autres ou pas.
Et alors, comment se fait-il, mais ça sort peut-être du cadre de la linguistique, cher Mustapha Ben Taïbi, qu'à côté de ces versets violents, belligènes, de facture martiale, il y a aussi des versets qui enjoignent à l'amour, à la bonté, à la miséricorde, et que cela, eu égard à la psyché humaine de nos jours, ne sont pas mis en exergue.
Non, ils ne sont pas mis en exergue. Je dis, pour moi, ça fait toute la beauté et la fascination d'un texte comme le Coran, qui, à la fois, il y a des versets qui sont de choc, et qui nous posent à poser des questions sur les sens-là.
Et qui tourmentent,
et qui sont douloureux à recevoir. Et à la fois, on a des versets de toute beauté, de spiritualité, de toute inspiration, qui nous laissent un petit peu pantois. C'est, voilà. Donc, ils sont pas mis en avant. Alors, encore, pourquoi ils sont pas mis en avant? Parce que ceux qui veulent pas mettre en avant, ils voient les choses autrement, d'après une lecture différente de ceux qui mettent les choses en avant.
Et vous pensez, nous qui approchons maintenant au terme de notre entretien, que le fait d'appliquer les sciences humaines à un texte pour déplacer les études du sacré vers d'autres horizons cognitifs et porteurs de sens est une des méthodes pour sortir de l'ornière et de, d'objectiver, si je puis dire, de mettre à distance le sacré.
C'est une des méthodes possibles de voir les choses autrement. J'essaie pas de donner des consignes particulières de comment lire le texte coranique objectivement, parce que ce que j'ai essayé moi d'éviter, et ce qu'on peut éviter, c'est quelques points fondamentaux, à savoir, il faut éviter de rendre compte du texte coranique d'après l'intention de l'auteur. Je doute fort qu'on peut accéder à un sens du texte après intention de l'auteur.
Enfin, vous doutez fort, l'halitote est très très euphémistique. Voilà. C'est impossible.
C'est impossible. Donc, comme j'ai dit, on n'a accès au texte coranique que par les possibilités offertes par ceux qui ont eu à lire et à nous transmettre, etc. Et puis, ceux qui disent, par exemple, pratiquer une analyse objective et scientifique de texte. Objectif, j'en doute un peu, puisque, comme j'ai dit, on traîne tous un passé, une histoire, des références propres, etc. Et on a une position qui remonte peut-être loin à l'enfance, qui traîne, etc.
Mustapha Ben Taïbi, que la psyché influe sur le choix plus ou moins sélectif, sur une inclination à lire le texte.
Ça influence dans le mesure où celui qui va lire d'après ce qu'il entend lire, c'est que il met en avant un point par rapport à un autre. Il accentue un point par rapport à un autre. C'est ça.
C'est-à-dire qu'on ne lit pas le Coran de la même façon si on est au Yémen ou si on est en Amérique.
Je pense qu'il est difficile de lire le texte coranique comme le lisaient les compagnons et destinataires de la première époque du texte coranique.
Bien, merci. Merci beaucoup, Mustapha Ben Taïbi. Je rappelle que vous êtes linguiste, vous enseignez à l'Institut international de la pensée islamique et vous enseignez aussi à l'Université catholique de Louvain. Et puis votre ouvrage qui nous a servi comme base de discussion aujourd'hui, ce sont ces quelques façons de lire le texte coranique aux éditions Lambert-Lucas. Et vous avez pratiqué ou appliqué en tout cas une grille d'analyse empruntée aux sciences du langage et à la théorie de l'énonciation, la théorie des genres, du dialogisme, au texte coranique.
Merci à vous.
C'était Culture d'Islam par Alain Bencher. Nous avons reçu donc Mustapha Ben Taïbi aujourd'hui. L'attaché de production est Dominique Compétissa. La prise de son est assurée par Myriam Guillot et la réalisation par Franck Lilin.